Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Il est un petit peu plus de 6 heures du soir et je vais vous dire ce que je vois depuis l'endroit où je me trouve, de La Ciotat et de son port. D'abord, au loin, j'aperçois les petites montagnes qui bordent la côte du côté de la Seine, de Sifour, Toulon est derrière. Et puis ensuite, il y a un nouveau chaînon qui plonge dans la mer devant les Lecques. Donc, un ensemble de petits chaînons de montagnes qui viennent mourir dans la mer, toute bleue, qui est là, à l'avant, et qui forme la baie de La Ciotat. Plus près de moi, il y a la ville de La Ciotat, la partie ancienne de la ville de La Ciotat, avec son vieux port, son ancienne mairie, ses maisons caractéristiques des ports anciens de la côte méditerranéenne, son église avec un clocher carré, un toit de tuiles assez massive, et puis en arrière, le fouillis des maisons qui sont agglutinées le long des petites rues du vieux quartier. Quand je me déplace sur la droite, je vois le port industriel, c'est-à-dire ce qui reste des chantiers de construction de La Ciotat, surmonté par des grues qui sont restées, un pont, deux ponts roulants, dont un extrêmement grand, qui dominait les chantiers de construction navale qui, jusque dans les années 80, ont construit des bateaux, des pétroliers et surtout, à la fin, des méthaniers très modernes avant que les chantiers s'arrêtent, plongeant cette cité dans un désarroi total puisque la plus grande partie de la population active travaillait dans ces chantiers ou pour ces chantiers. Tout à fait sur la droite, on voit une espèce de massif très curieux, avec des formes un peu déchiquetées, arrondies, qui est un reste d'un ancien delta qui a été chahuté là par les forces tectoniques. Et c'est ce qu'on appelle le bec de l'aigle, c'est ce relief si caractéristique qui ferme la baie de La Ciotat. La lumière est magnifique, c'est la lumière de 6 heures. La journée a été très belle. Je pourrais ajouter que j'aperçois ça et là, au milieu des maisons, des palmiers, des cyprès qui jettent une note méditerranéenne. Et puis, dans le port, dans le vieux port, un fouillis de mâts, de bateaux de plaisance, et puis de ces fameux petits bateaux aux deux extrémités en pointe qu'on appelle les pointus, les fameux pointus marseillais. Et dans la partie industrielle, qui s'est reconvertie tardivement après cette énorme crise suscitée par la fermeture des chantiers navals, eh bien, on aperçoit les superstructures de yachts de luxe, puisque cette partie industrielle du port est devenue un vaste atelier de réparation, de reconditionnement de yachts. Et là, il y a des bateaux absolument magnifiques qui viennent de tous les coins du monde et où les ultra-riches viennent faire réparer ou réaménager leurs bateaux. Voilà ce que je vois de La Ciotat. Le soleil dort les grues, dort les vieilles maisons, tandis que quelques voiles se montrent dans la baie de La Ciotat, de plaisanciers qui viennent tardivement profiter du coucher du soleil.
Et vous savez quoi? La baie de La Ciotat, elle vient d'entrer au club très fermé des pays qui s'enorgueillissent de posséder les plus belles baies du monde. C'est une sorte d'association qui a été fondée en 1997 et qui comprend 27 pays. Et la baie de La Ciotat, cette année, vient d'être acceptée, vient d'entrer dans cette liste des plus belles baies du monde. C'est un hommage qui est rendu tardivement au jugement du grand romancier du 19e siècle, Stendhal, qui admirait beaucoup la baie de La Ciotat. Quand elle est calme, le mardi, quand la Méditerranée est calme, eh bien on voit arriver les canadairs jaunes et rouges, les gros hydravions, qui viennent s'entraîner dans la baie, qui viennent écoper l'eau, puis la relâcher un petit peu plus loin quand ils ont repris leur vol, de manière à être prêts à intervenir en été sur les feux de forêt qui ravagent périodiquement la côte méditerranéenne et l'arrière-pays. Mais la Ciotat, ce n'est pas seulement cette baie sublime. C'est aussi mes amis, Patrick et Rina Ovaguignan, qui dirigent, font fonctionner peut-être la plus belle et la meilleure boucherie, charcuterie, traiteur de la ville. C'est ici que Patrick me reçoit, sur une petite place ombragée de platanes, au milieu de laquelle se dresse une ancienne halle, dans le style des halles de Baltar, qui a été aménagée et qui est utilisée maintenant en salle de cinéma, une sorte de médiathèque, en hommage aux Frères Lumière. Vous savez, les Frères Lumière, ceux qui ont filmé pour la première fois l'arrivée d'un train dans la gare de La Ciotat, en inventant par le même coup le cinéma. Le cinéma. Patrick, bonjour. Merci d'accepter de parler à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment vous êtes devenu, vous en êtes venu à exercer ce métier que vous exercez avec passion?
Ben, en reniant ma parole, j'avais donné ma parole que je ne ferais jamais le boucher. Et donc j'ai fait mes études en voulant être chimiste. Donc j'ai passé les examens pour être technicien chimiste. J'ai commencé la première année de technicien super chimiste. Et puis l'amour du golfe de la Ciotat est revenu. Je ne voulais pas aller travailler soit du côté de Lyon dans la pétrochimie ou du côté de Berre. Je voulais quand même garder cette qualité de vie que l'on a à la Ciotat. Et donc ma femme étant native de la Ciotat, on a décidé tous les deux d'arrêter nos études et donc on a repris l'entreprise de mon père en premier, et puis ensuite celle de mon oncle. Puis ma femme a créé sa propre entreprise qui était en lieu et place de l'ancienne mercerie de ma belle-mère. Et donc on a eu chacun de notre côté nos expériences, mais on voulait à tout prix rester à la Ciotat. Et donc voilà, on a réalisé notre rêve, quoi. Donc on est resté à la Ciotat.
Donc vous êtes passé de la chimie à la boucherie, au métier de bouche, on peut dire, puisque là vous faites pas seulement de la boucherie, et par amour de la Ciotat. Vos origines familiales, d'après votre nom, vous avez des origines, des racines arméniennes.
Oui, j'ai 50% de racines arméniennes, mais j'ai aussi un quart de Sartois donc dans mes veines, et j'ai aussi un quart de Niçois donc dans mes veines aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que l'épisode arménien a marqué beaucoup parce que du fait qu'on a été proche de ma grand-mère paternelle, ça nous a vraiment marqué ce génocide. Et donc, on se sent vraiment concerné par ce problème-là. On demande juste une simple reconnaissance de ce génocide. Voilà.
Malgré tout, malgré cette blessure ancienne que vous portez, dont vous portez la tradition, vous êtes comme pratiquement tous les Français, c'est-à-dire que vous avez de multiples origines et vous êtes de ce fait un vrai Français.
On est très fiers de ces multiples origines parce que j'ai mon arrière-grand-père qui a émigré d'Arménie, mais j'ai mon grand-père qui n'a pas émigré, il était italien et d'un coup il est devenu français en étant dans le comté de Nice. Et puis j'ai un arrière-arrière-grand-père qui était pharmacien et apothicaire, et ça je l'ai appris par les écrits que ma grand-mère m'a transmis, qui était aussi chimiste. Et je l'ai appris bien longtemps après que j'ai arrêté mes études. Et tout ce mélange fait, je pense aujourd'hui, un vrai Français, quoi.
Voilà, donc vous avez à la fois de multiples racines, mais aussi des racines, on va dire, professionnelles, qui vous ont conduit vers ce métier. Alors, vous avez parlé de qualité de vie à propos de la Ciotat, dont vous êtes...